Upload UTC, l'Université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Je me méfie un peu de la notion d'universel au sens... l'universel peut être une manière de cacher ou d'essayer d'oublier les réalités quand elles sont trop contraignantes. Je pense que plutôt que de l'universel, je parlerai de quelque chose que, de tout à fait nouveau pour nous dans le monde actuel. Je parlerai de la relation. Je parlerai de la relation parce que pour moi, la relation, c'est la quantité finie de toutes les particularités du monde, sans en oublier une seule. Et je pense que la relation, c'est notre forme d'universel aujourd'hui. C'est notre manière à nous tous, d'où que nous venions, d'aller vers l'autre et d'essayer, comme je dis souvent, de se changer en échangeant.
Eh bien, donc, c'était Édouard Glissant qui a été légèrement coupé à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'était Édouard Glissant dans une émission de 2004, L'invitation au voyage. Et donc, on aura noté que Édouard Glissant nous dit que la relation est un fait tout à fait nouveau pour vous, pour nous, pardon. Aujourd'hui, on va parler du fait divers dans le cadre donc du cours émission de l'UTCWE01 Écrire, communiquer et collaborer sur le web. Donc, je suis Stéphane Croza, accompagné d'Audrey Guélou et de Léo à la réalisation. Aujourd'hui, on va échanger nos rôles. C'est donc Audrey qui va nous proposer cette introduction aux faits divers, l'univers des médias sociaux libres, décentralisés et fédérés. Et c'est moi qui vais essayer d'animer entre ces interventions. Bonjour Audrey, bonjour Léo.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors Audrey, en termes de plan cette semaine, tu vas commencer par nous proposer quelques définitions, médias sociaux, libres, décentralisés, fédérés, les mots-clés du titre. Ensuite, nous accompagner dans une petite visite du fait divers. On va faire le lien ensuite entre fédération et archipélisation et on retrouvera un des concepts d'Édouard Glissant qu'on a eu en introduction. Ensuite, tu vas nous parler interopérabilité puis fonctionnement technique. On va rentrer un petit peu à l'intérieur de la mécanique. Et puis, on conclura sur les enjeux du fait divers. Alors, comme d'habitude, si vous souhaitez approfondir, librecours.net. Si vous souhaitez réécouter l'émission, aperi.tube. Et si vous souhaitez poser des questions, team.picasoft.net, équipe WE01, canal live, et également possible sur Twitter et Mastodon avec le mobilise upload, à condition que j'arrive à le voir. Eh bien Audrey, c'est à toi pour la première partie et quelques définitions.
Merci Stéphane. En effet, alors, on va commencer par quelques définitions pour nous aider à percevoir plus précisément l'intérêt de s'intéresser à cet outil que sont les médias sociaux, et en particulier donc, les médias sociaux décentralisés et fédérés. Et on va essayer ensuite de comprendre voilà, les principes et le fonctionnement technique, et puis de saisir quelques enjeux technologiques, politiques et sociaux. Donc on commence par quelques définitions en premier. Alors, qu'est-ce qu'un média social ? Eh bien, un média social, c'est un média numérique. Je prends la définition de l'Office québécois de la langue française. C'est un média numérique qui est basé sur les caractéristiques du web 2.0 et qui vise à faciliter la création et le partage de contenu généré par les utilisateurs dans un contexte donc de collaboration et d'interaction sociale. Alors, une petite précision, on emploie parfois le terme de réseau social pour parler de média social. C'est une confusion qui est commune et que je faisais au départ aussi, mais ces deux terminologies sont bien différentes, elles ont une signification bien distincte. Un média social, c'est la technologie qui permet de créer, de développer et puis de maintenir ces réseaux sociaux. En effet, le réseau social, donc par opposition aux médias sociaux, c'est l'ensemble des identités sociales, des individus, des organisations qui sont reliées entre elles par des liens qui sont créés lors d'interactions sociales. Donc voilà, il y a bien une différence entre médias et réseaux ici. Alors, Il existe un modèle de média social que vous connaissez sans doute, qui est le modèle centralisé et propriétaire. Alors, le modèle centralisé et propriétaire des médias sociaux, il a donc ces deux caractéristiques. Le fait d'être centralisé forme un réseau de médias sociaux sous le contrôle d'une autorité centrale. C'est-à-dire que tous les membres du réseau dépendent d'une seule autorité qui a le contrôle sur le réseau, qui décide des conditions d'utilisation de ce réseau, et ce, de façon unilatérale. Et puis, deuxième point, il est également plus facile de contrôler, de surveiller, de détruire, même sans mauvaise intention, un réseau qui est centralisé, c'est-à-dire qui dépend d'un seul point. Alors, la deuxième caractéristique de ce modèle, donc, c'est le fait de reposer sur des logiciels propriétaires, c'est-à-dire des logiciels qui appartiennent à une entité privée, une organisation, une entreprise, et dont le code source, surtout, n'est pas libre. Cela signifie, alors on va reprendre la définition d'un logiciel libre juste ensuite, mais cela signifie que le fonctionnement de ces médias sociaux sont opaques pour leurs utilisateurs, leurs utilisatrices. Les algorithmes qui sont utilisés sur ces médias sociaux ne sont pas publics, donc ils ne peuvent pas être étudiés ni audités. On ne peut pas essayer de les comprendre, de comprendre leur fonctionnement en envoyant justement la recette de cuisine, comme on peut le dire par ailleurs. Alors, voilà, donc il n'est pas possible d'auditer ces médias sociaux et non plus, donc il n'est pas possible non plus d'en détecter d'éventuelles failles de sécurité ou de chercher à en améliorer le fonctionnement en tant que contributeur, contributrice. Alors, on peut choisir de se servir uniquement de ces médias sociaux, centralisés et propriétaires, en étant conscient de ces caractéristiques et puis de leurs conséquences sur nos usages, sur nos habitudes de communication. Mais on peut aussi essayer d'utiliser en parallèle ou bien exclusivement un autre type de médias sociaux, un modèle alternatif qui est fondé sur des principes différents. Alors, on va aborder justement dès à présent ces quelques principes. Un premier point, c'est que ces médias sociaux alternatifs utilisent des logiciels libres. Alors, les logiciels libres, on en a parlé plus tôt en W1, mais répétons juste simplement, un logiciel libre se caractérise par quatre libertés essentielles. Si je vais vite, c'est la liberté en premier de faire fonctionner le programme comme on le souhaite, pour n'importe quel usage, la liberté d'en étudier le fonctionnement, la liberté de le modifier, donc de l'adapter selon nos besoins, pour qu'il s'adapte à nos besoins, la liberté d'en redistribuer des copies, et puis la liberté donc de redistribuer des copies avec les modifications que l'on peut y apporter. Alors, c'est très important pour comprendre le modèle décentralisé et fédéré dont on parle aujourd'hui, puisqu'en effet, ce modèle repose sur, enfin, est composé d'un ensemble d'instances. Alors, une instance, c'est une copie d'un logiciel libre en premier, puisque en écoutant donc les libertés associées au logiciel libre, vous comprenez que l'utilisatrice du logiciel est libre d'en produire des copies. Donc, une instance, c'est une copie d'un logiciel libre qui est installée sur un serveur, administrée par un particulier ou une organisation, qui va être modéré, géré par une personne ou bien une équipe. On accède à cette instance via son URL sur le web et cette instance peut échanger des informations, communiquer avec d'autres instances grâce à un langage de communication commun, standard, que l'on appelle un protocole. Alors, de la même façon, le protocole, ça va être un rappel pour les étudiants de WE1, mais un protocole, donc c'est un ensemble de règles que l'on doit suivre pour communiquer, ça c'est la définition générale, mais en informatique, un protocole standard, c'est donc un ensemble de règles qui vont être normalisées et qui permettent à des entités hétérogènes d'échanger des données. Quand je parle d'entités hétérogènes, ça va être en l'occurrence des serveurs qui hébergent des logiciels de médias sociaux libres. Voilà un premier point pour comprendre les médias sociaux libres, décentralisés et fédérés. Alors vous entendez décentralisés et fédérés, on aborde tout de suite la décentralisation. Le modèle décentralisé de médias sociaux donc s'appuie sur un réseau dont la typologie est décentralisée. Si vous me suivez sur LibreCours, si vous êtes en même temps sur le support, vous voyez juste cette comparaison entre un réseau centralisé, décentralisé et distribué. Ici, on s'attache à la typologie décentralisée, c'est-à-dire que le réseau ne dépend pas d'un seul point unique, d'un seul centre, mais il existe, on va dire, différents de nombreux centres, de nombreux nœuds centraux dans le réseau, auxquels sont attachés tous les autres nœuds. Alors, une propriété essentielle de la décentralisation, c'est que toute entité puisse s'ajouter au réseau, mais qu'aucune entité n'ait le pouvoir d'en contrôler l'ensemble, comme c'est le cas dans le réseau centralisé. Alors, une conséquence de cette propriété pour un réseau de médias sociaux, c'est la liberté de choix. Si une instance du réseau ne me plaît plus, si elle change ses conditions d'utilisation en tant que média social, ou bien si elle disparaît, si elle est détruite, je peux m'inscrire sur une autre instance et je peux maintenir mon accès au réseau. Voilà. Voilà pour la décentralisation. Et le principe de décentralisation va avec le principe de fédération. Alors, la fédération, on en a différentes définitions. On peut dire généralement que c'est l'association, l'alliance. En général, on parle d'une alliance politique d'États souverains ligués entre eux. Bon, là, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre qu'une fédération, c'est un groupement de communautés humaines, de groupes, en un seul, qui poursuivent un but commun en se fédérant. C'est-à-dire que, pour le fait divers, la fédération représente le regroupement de toutes les instances. Et la fédération de deux instances, c'est la mise en relation de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que lorsque deux instances sont fédérées, tous les utilisateurs de ces instances peuvent interagir ensemble. Donc le système de fédération forme un réseau d'instances autonomes qui permettent à leurs utilisateurs de communiquer dans l'ensemble de ce réseau. Voilà. Une petite précision. Dans le fait divers, il y a deux conditions de fédération, c'est-à-dire que on a la condition technique que l'on va aborder un petit peu plus loin en détail, c'est-à-dire que la fédération repose sur, donc on l'a vu, l'utilisation d'un langage commun, d'un protocole ouvert et standardisé qui permet aux instances de se fédérer, mais cela rend possible la fédération, mais la fédération n'est pas obligatoire entre toutes les instances, c'est-à-dire que il y a ensuite la condition humaine, c'est-à-dire que bien que la fédération soit possible entre toutes les instances, la décision pour une instance de se fédérer avec l'ensemble du réseau ou avec d'autres instances dépend d'une décision humaine. On va voir ça un petit peu plus tard. Voilà, donc pour résumer, les médias sociaux libres, décentralisés et fédérés reposent sur trois briques fondamentales. La première, c'est le fait de reposer sur des instances de logiciels libres qui communiquent avec des protocoles standards ouverts. La deuxième brique, c'est la décentralisation. Et la troisième, c'est la fédération. Voilà. Donc c'est un nouveau paradigme de médias sociaux qui représente l'ensemble des médias sociaux libres qui sont installés sur des serveurs qui sont gérés de façon autonome par des entités différentes et qui communiquent avec des protocoles de communication standards et ouverts.
Vraiment pratique l'Internet. Les 40 millions de connectés s'échangent des petites recettes de cuisine. Par exemple, là, Luigi de Venise répond à Bruno de Paris qui lui demandait la vraie recette traditionnelle de la polenta. Sur Internet, les enfants parlent aux enfants. Ici, un petit gars d'Oku, aux États-Unis, cherche un correspondant en France. Ce service s'appelle K12. 550 écoles américaines s'y sont connectées, une seule en France. Sur Internet, les citoyens du monde électronique débattent toute la journée. Là, un jeune Californien participe à un forum sur le sida et raconte sa propre expérience. Les monomaniaques se réunissent dans les clubs virtuels très fermés pour parler de culte. Là, un fou furieux propose la liste de tous les cinémas du monde qui projettent le Rocky Horror Picture Show. En France, au studio Galande à Paris.
Eh bien, je précise également, même si c'est tout à fait hors sujet, que le Horror Picture Show était la première comédie musicale à avoir été créée et jouée à l'UTC. Si ce petit extrait d'une émission de télévision de 1994 a retenu mon attention, et bien c'est parce qu'on voit que dès l'origine du web, et bien l'idée d'échange entre pairs, l'idée de pratique sociale est évidemment présente. En fait, ça remonte même à l'origine d'Internet, même avant le web, puisque les premiers usages, par exemple les mails ou les forums Usenet, étaient bien dans une logique d'échange entre les utilisateurs. Alors, tu nous as expliqué, Audrey, qu'un média social, en général, avait besoin d'un serveur. Dans un cadre centralisé, on peut considérer il y a plusieurs machines serveurs, mais en fait, il y a comme s'il y avait un seul serveur et une seule copie du logiciel, un logiciel non libre. Dans le cadre décentralisé, ce dont tu vas nous parler surtout aujourd'hui, eh bien en fait, on a plusieurs serveurs dont chacun a une copie du logiciel. Tu nous as expliqué que pour ça, il fallait, ou en tout cas, il était beaucoup plus pratique que le logiciel soit libre. L'idée, c'est que eh bien, ces différents serveurs, en quelque sorte, n'importe qui peut décider d'ajouter une instance, une copie du logiciel sur son propre serveur. Mais bien sûr, pour que l'ensemble fonctionne, eh bien, il faut que ces instances soient fédérées, qu'elles puissent communiquer entre elles. Tu nous as précisé également que c'était une possibilité, mais pas une obligation. Donc, dans un média social décentralisé et fédéré, eh bien, tout le monde n'est pas obligé d'être connecté avec tout le monde. Alors, on a une question, on est rentré vif dans le sujet, mais en fait, tu nous as même pas donné un exemple de médias centralisés. Alors, c'est vrai qu'on en connaît tous beaucoup. Je sais que juste après, tu vas nous donner des exemples de médias décentralisés. Peut-être que pour introduire cette deuxième partie, tu peux nous mettre en correspondance quelques médias centralisés et décentralisés.
Oui, bien sûr. Alors, les médias centralisés que l'on connaît sans doute sont, je peux dire, Facebook, on va dire Twitter, on va dire YouTube, on va dire Instagram. Voilà, ce sont des médias sociaux centralisés puisque les serveurs de Facebook appartiennent tous à Facebook Inc. De la même manière, tous les serveurs de Twitter appartiennent à Twitter et donc tous les utilisateurs et utilisatrices de Twitter utilisent ces serveurs-là et ne peuvent pas ajouter, imaginons leur propre instance de Twitter et personnaliser leur Twitter. Alors, si on fait quelques équivalences, en effet, on va faire un petit aperçu du fait divers, un petit tour des médias sociaux qui existent. Le principal média social, on va dire le média social qui est le plus peuplé sur le fait divers, ça s'appelle Mastodon. Et donc vous allez avoir plusieurs instances de Mastodon. On ne s'inscrit pas sur Mastodon, mais sur une instance de Mastodon. Mastodon, c'est un logiciel de microblogging qui va donc être une équivalence à Twitter. Il existe aussi, on dit que Diaspora est un équivalent à Facebook. Pour Instagram, PixelFed, par exemple. Et puis, une équivalence très importante pour YouTube, c'est PeerTube. Alors, on va donc faire un petit tour de ces médias sociaux-là. Donc, ces médias sociaux composent donc le fait divers. Alors, c'est vrai que le fait divers, je dis le fait divers, on l'écrit avec ou sans E. Il existe aussi la fait divers avec ou sans accent aigu. Enfin, vous entendrez plusieurs versions du nom de la fait divers. On a un petit peu de mal en français à trouver le meilleur équivalent à cette origine anglaise du terme et à se débarrasser de la connotation un petit peu glauque du fait divers. Mais rassurez-vous, l'étymologie fait divers est bien plus belle que cela. En fait, le nom fait divers est un mot valise qui est composé des termes anglais fédération et universe. Voilà, donc le fait divers, c'est à la fois, on l'a dit, une fédération, un univers. Elle forme donc ce réseau décentralisé de serveurs qui héberge des services libres comme voilà, Mastodon, PeerTube, PixelFed et d'autres que vous pourrez retrouver sur thefédération.info. Alors vous, sur Libre-Cours, toutes les URL sont disponibles, mais c'est vrai que sur ce site-là, thefédération.info, vous avez toute la liste des projets en cours ou bien établis qui composent le fait divers. Alors, donc quelques dates clés, juste pour comprendre un petit peu l'histoire du fait divers, comment a été créé le fait divers. Alors ça date, le tout début du fait divers date de 2018, à la création de sa toute première instance. C'était l'instance identi.ca, ça a été créé par Evan Prodromou. Premier protocole d'échange utilisé était alors OStatus, qui est toujours un protocole utilisé dans le fait divers. Alors ensuite, en 2012, cette première instance s'est divisée. Elle a été transformée en une instance pump.io et puis également en un média social, le GNU Social, qui est un média social de microblogging. Plusieurs instances ont été créées, d'autres médias sociaux sont apparus, tels que Friendica et Upzilla. Et puis, GNU Social était le média social principal du fait divers jusqu'en 2016. Et puis, Mastodon a été créé à cette date-là. Ensuite, ActivityPub a été créé et normalisé, validé par le Social Web Working Group du W3C en tant que protocole décentralisé pour les médias sociaux. Donc c'est ensuite le protocole qui a été le plus utilisé dans le fait divers à partir de 2018. Et vous retrouvez ensuite le détail de l'histoire du fait divers sur A People's History of the Fediverse, idem, retrouver ça sur LibreCours. Alors, quelques principaux médias sociaux du fait divers, on l'a dit, Mastodon, Peertube, PixelFed, Mobilizon, qui est un service d'organisation d'événements, de gestion de groupe, qui a été développé comme Peertube par l'équipe et les développeurs de Framasoft. Vous avez également des moteurs de blog comme Plume et Write Freely, Funk Whale pour les services de partage audio, et puis aussi, il existe un service de forum de discussion qui est un petit peu équivalent à Reddit ou à Hacker News. Si vous connaissez ça, c'est un média social qui s'appelle Lemmy. Voilà. Donc tous ces médias sociaux sont copiés sur des instances qui forment le fait divers. On va voir un petit peu plus tard comment toutes ces instances peuvent communiquer entre elles. Et donc le fait divers forme donc tout ce réseau de médias sociaux qui sont donc tous libres connectés de façon décentralisée et fédérée. Je ne devrais pas dire connectés, on va dire fédérés. Voilà, quelques chiffres d'utilisation. Alors, pour cela, je vous invite justement à vous rendre sur the-fédération.info où là vous verrez que il y a aujourd'hui 9572 nœuds qui forment la fédération. Quasiment 4 millions d'utilisateurs. Et donc voilà, vous retrouvez toutes les statistiques sur ce site-là. Et quelques exemples d'instances. Et bien pour Mastodon, évidemment, je vais vous parler de Framapiaf, l'instance qui est gérée par l'association Framasoft. Les enregistrements des émissions de W01 sont à retrouver sur l'instance Peertube à Peri.tube. C'est un exemple d'instance Peertube. Pour Mobilizon, par exemple, il existe l'instance Mobilizon de Picasoft. Voilà, donc plusieurs communautés utilisatrices existent sur le fait divers, c'est-à-dire que vous avez des instances généralistes, des grandes instances, des plus petites instances, et puis également, vous avez des instances qui regroupent des communautés selon des centres d'intérêt bien précis. Par exemple, donc c'est ce qu'on va appeler des serveurs à thème. Alors vous avez des instances de Mastodon qui vont regrouper des professionnels de la photographie, par exemple, ou bien aussi, ça va être plutôt aussi des instances de PixelFed. Vous avez aussi des instances de Pléroma, de Mastodon, qui vont s'intéresser à des langages particuliers, qui vont être regroupés par région, par hobby. Voilà, donc après, c'est à vous d'aller explorer toutes ces communautés-là, toutes ces instances, et puis d'aller également voir comment les communautés contributrices fonctionnent et font évoluer le fait divers. Voilà.
Évidemment, il y a cette hyper-concentration qui doit être questionnée et qui peut révolter à certains moments parce qu'elle s'appuie sur des dispositifs de production qui contreviennent aux droits fondamentaux. En même temps, dans un monde avec l'ouverture proposée par ces outils numériques, il y a aussi des échanges culturels au sens, encore une fois, pris dans son sens le plus large, et des solidarités, je pense, à construire à l'intérieur de ces pratiques qui sont autant de lueurs d'espoir pour construire un autre demain, et en particulier parce qu'il me semble que les échanges culturels, si on arrive à les organiser de façon plus démocratique, ça devient des processus de paix en tant que tel. Et ça, les pratiques numériques pourraient participer à un processus de paix qui serait un processus d'échange culturel, de discussion et de délibération collective, mais qui demande cette déconcentration, ça c'est certain.
C'était Laure Offraire, quels impacts du numérique sur nos vies en 2019, que l'on peut retrouver donc sur l'instance framatube.org. Et donc c'est une interview qui a été réalisée dans le cadre du MOOC Chaton. Audrey, tu nous as présenté quelques alternatives du fait divers. Hein. On a vu donc Peertube comme alternative à YouTube, dont on parle régulièrement ici, Mastodon comme alternative à Twitter, Mobilizon comme alternative par exemple au groupe Facebook, ou encore PixelFed comme alternative à Instagram. Alors je crois que tu vas revenir un peu après sur cette notion d'alternative, nous expliquer que bien parfois c'est pas exactement la même chose. Mais je voudrais juste revenir sur un point que tu as abordé un peu rapidement. C'est la place que tout ça s'apprend. Tu nous as donné des dates assez récentes. On voit que les standards, le standard ActivityPub, par exemple, tu nous as dit que ça a été créé, posé en 2018. Donc tout ça, c'est pas si vieux. J'aimerais bien avoir que tu nous redonnes une idée de la place que ça prend. On parle de combien d'utilisateurs, de combien de personnes connectées entre elles. Alors, je vais pas te poser une question trop compliquée avec des pourcentages, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est quelque chose qui est vraiment significatif, ou alors, en gros, c'est toi, moi et deux, trois copains qui faisons juste des choses dans notre coin?
écoute, j'aimerais bien avoir 3 millions de copains. Non, mais c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a quand même plus de 3 millions d'utilisateurs. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, il faut être honnête en disant qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne vont pas être actifs ou alors qui vont être également des bots. Les bots existent sur la fédération, mais on a donc les statistiques, par exemple, des utilisateurs qui sont actifs, qui ont été actifs le mois dernier. Donc, ça représente plus de 400 000 personnes et sur les 6 mois derniers, plus d'un million de personnes. Alors, Mastodon, c'est, je l'ai dit un petit peu plus tôt, le média social qui est le plus peuplé. Alors, les instances de Mastodon, hein, donc c'est le média social qui est le plus représenté et le plus peuplé donc, sur le fait divers. Il y a plus de 3000 instances de Mastodon, donc voilà, 3000 serveurs, 3000 personnes ou organisations qui ont installé une instance de Mastodon, qui la maintiennent et sur lesquelles donc, qui se répartissent donc un petit peu moins de 3 millions d'utilisateurs. Donc là, je vois 2 746 952 utilisateurs. Voilà. Donc en effet, c'est pas le nombre, les millions d'utilisateurs de Twitter ou de Facebook, en effet. Mais ça grandit de plus en plus. Et puis, ça se fait par vague, c'est-à-dire que en 2016, en 2012, on a eu soudainement des grandes vagues d'immigration de Twitter vers Mastodon. Lorsque on a un événement qui va montrer une forme de censure, par exemple, eh bien soudainement on veut trouver des alternatives, continuer à se parler sur les médias sociaux, et donc voilà, on découvre qu'il existe de tels médias, et donc c'est ainsi que les médias sociaux se peuplent, les médias sociaux du fait divers se peuplent, ouais.
Merci Audrey. Ben écoute, je crois que puisque tu nous as dit qu'il y avait environ 3000 instances de Mastodon, donc la question d'après, c'est comment est-ce que ces instances s'articulent donc pour former un archipel. T'as la main.
En effet. Alors c'est vrai que quand on pense un petit peu à ce modèle-là, eh bien ça nous amène vers des nouvelles questions qui sont relatives à notre façon de communiquer, de nous organiser, de coopérer entre toutes ces instances. Tu disais 3000 instances de Mastodon. Alors la question, c'est de savoir comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que ça peut s'organiser, comment est-ce que tous les utilisateurs, utilisatrices de Mastodon ou du fait divers en général peuvent interagir. Il existe un concept que j'ai découvert via Framasoft, puisque c'est le concept d'archipélisation, donc qui a été proposé par Édouard Glissant, que l'on a entendu en tout début d'émission. Donc Édouard Glissant, un romancier, poète et philosophe martiniquais, et qui a pensé l'archipélisation, qu'il nomme aussi créolisation, pour penser la mise en relation de communautés aux cultures singulières, par opposition à la pensée continentale, c'est-à-dire l'établissement de larges continents uniformisés. Alors, pour comprendre ce concept-là, en fait, ce qu'il faut voir et essayer de mettre en parallèle avec le fonctionnement du fait divers, c'est que dans un archipel, chaque île va être habitée, maintenue, entretenue et gouvernée de façon autonome par une communauté qui va avoir ses propres règles, ses propres codes, règles de vie, mais que ces îles-là ne sont pas isolées. Elles baignent dans des eaux communes et donc cela leur permet de communiquer et puis de coopérer dans des buts communs, même si ce n'est que ponctuellement. Et donc, en effet, j'ai découvert ce concept-là via Framasoft, qui utilise ce concept pour décrire ses relations avec d'autres structures et puis pour aussi décrire comment le fait divers fonctionne. Voilà. Alors, si on veut creuser cette application du concept au fonctionnement de la fédération, du fait divers, par exemple, on peut s'intéresser à la singularité des instances de Mastodon. C'est-à-dire que si on considère que chaque instance du fait divers va correspondre à une communauté, alors chaque instance va être un lieu d'expression qui va être configuré de manière spécifique, qui va avoir ses propres codes également, c'est-à-dire au sens propre comme au figuré. Les personnes qui vont gérer l'instance vont choisir un code de conduite, c'est-à-dire les règles de vie que la communauté doit accepter sur l'instance, et puis également va adapter le code informatique qui est libre donc de Mastodon, et donc avoir des spécificités techniques sur cette instance. Alors, cela a pour conséquence que d'une instance Mastodon à l'autre, les moyens d'expression et puis les choix de fédération vont être différents. Donc, pour rappel, hein, comme c'est un logiciel libre, chaque instance va adapter le média social comme elle le souhaite. Ça peut être simplement un changement d'apparence, de design de l'interface, ou bien le fait de changer la limite du nombre de caractères par message. Et puis, un point très important, c'est de voir que, en effet, eh bien, la diversité des instances implique une diversité de culture, une diversité de goût au sein du fait divers. C'est bien le fait d'avoir 3000 instances différentes, eh bien, ces 3000 instances ne vont pas fonctionner de la même manière. Et donc, il y a une attention particulière à porter au choix de son instance lorsqu'on est utilisateur, et puis au choix de fédération que l'on fait lorsque l'on modère ou lorsqu'on administre une instance. Alors, premier point, lorsqu'on est utilisateur, on va choisir une instance du fait divers lorsque l'on veut entrer dans ce fait divers. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas sur Peertube en général, je ne m'inscris pas sur Mastodon, je m'inscris sur une instance de l'un de ces logiciels. Alors, pour choisir, eh bien, on va avoir plusieurs critères. Un critère, c'est le fait de choisir un logiciel en fonction de son activité favorite. Ça va être en fonction de ce que l'on aime, de notre moyen d'expression favori. On peut en avoir plusieurs. Eh bien, on peut choisir de s'inscrire sur une instance donc, de microblogging, plutôt Mastodon, sur du partage de vidéos, plutôt Peertube, de photos, etc. Et puis, le second critère, ça va être, très important, de choisir une instance selon les valeurs et les règles que l'on souhaite respecter sur cette instance. C'est-à-dire aussi choisir le type de modération qui nous convient et les choix de fédération qui sont faits vis-à-vis de cette instance. Voilà, si on peut choisir une instance qui va être assez isolée sur le fait divers, qui va être, on peut dire, très protégée, ou bien une instance qui va être, au contraire, extrêmement fédérée avec le reste de la fédération. Et donc, c'est le choix de s'exposer à des relations avec des instances qui ont des règles de vie, des fonctionnements différents des nôtres. Alors, pour trouver les règles d'une instance, vous avez les adresses About More sur l'URL de l'instance, ou bien Terms, vous retrouverez ça sur LibreCours, mais pour chaque instance, il est possible donc de se renseigner sur les codes, les règles de vie de l'instance. Alors, pour communiquer ensuite entre instances fédérées, eh bien, sur Mastodon, c'est un logiciel de microblogging, on va publier des messages, on va commenter, on va interagir, repouetter, puisque un tweet, ça s'appelle un pouet sur Mastodon. Et donc, sur l'interface de Mastodon, vous allez avoir différentes colonnes, c'est-à-dire que on va voir sur une première colonne les publications de toutes les personnes que l'on suit, quelle que soit leur instance. On va avoir également un fil public local où là, on va pouvoir seulement voir les publications publiques des membres de notre instance, et puis également un fil public global qui va là montrer les publications des membres de l'instance, ainsi que les publications des comptes qui sont suivis par les membres de notre instance. Ça veut dire les comptes, les publications qui sont publiées à d'autres endroits du fait divers, à condition que ces comptes soient connus de notre propre instance. On va voir un petit peu plus tard comment cela fonctionne.
Combattre la mondialisation, on ne peut pas le faire si on s'enferme sur soi-même. Si je ne suis pas dans la mondialité, je ne peux pas combattre la mondialisation. Si je me renferme sur moi-même, si je me renferme dans mes murs, dans ma maison, dans ma cité,
dans ma nation.
Et c'est pourquoi je pense que ce sentiment de mondialité, qui est presque une poétique, mais qui est une poétique active, qui n'est pas une poétique contemplative, purement contemplative. C'est une poétique active qui permet l'échange, et qui permet le change, et qui permet de se maintenir tout en devenant autre.
Alors c'était à nouveau Édouard Glissant, la même émission que tout à l'heure, on a entendu Laure Adler, un bref instant à un moment, parler au-dessus d'Édouard Glissant. L'idée générale hein, de cette idée d'archipélisation, de créolisation, de mondialité, donc Édouard Glissant joue comme ça avec les mots, mais on l'entend dans cet extrait, eh bien, et la façon dont on se la rapproprie dans le fait divers, hein, c'est bien de pas rejeter un monde interconnecté, mais d'essayer de voir comment est-ce que l'on peut néanmoins entretenir la différence. Alors on l'a vu également avec l'extrait précédent, mais l'idée est qu'il y a une certaine incompatibilité en fait entre le fait d'avoir un centre et le fait de conserver cette notion de diversité. En fait, à partir du moment où on a un centre, à partir du moment où ce centre commence à édicter des règles, hein, on va y revenir, mais c'est nécessaire d'avoir des règles à un moment, et bien puisque ces règles sont centralisées, et bien en quelque sorte, on va arriver à une seule façon de gérer, voire une seule façon de penser. Alors Ivan Illich nous dit ça aussi, hein, dans un certain nombre de ses ouvrages, si ce n'est tous, mais en quelque sorte, dès qu'une institution dépasse un certain seuil, et bien elle commence à produire l'inverse de ce qu'elle cherche à faire au départ. Alors, le fait y compris avec l'éducation ou avec la santé, hein, je vous invite à aller consulter ça, c'est assez percutant parfois. Mais en tout cas, ça paraît assez applicable aux médias sociaux, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'à partir d'un certain seuil, eh bien en fait, on n'est plus en train d'échanger avec des gens dans un réseau, un peu ce qu'on avait envie de faire au départ, mais on est en train de faire d'autres choses. Alors, est-ce qu'on est en train de faire de la communication? Est-ce qu'on est en train d'optimiser des relations sociales? Est-ce qu'on est en train de perdre du temps à regarder des trucs qui finalement nous intéressent pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a une perte à un moment de ce qu'on cherchait à faire. Et c'est peut-être là où le fait de rester à une échelle humaine, une échelle plus petite, eh bien, à mon sens, a du sens. Et donc, c'est là où ça prend corps avec les médias décentralisés. Alors, néanmoins, on a une question autour de ça. Tu nous as parlé un petit peu de modération, mais donc une question de Guillaume qui nous demande si la régulation sur les médias sociaux, parce que tu as parlé de censure à un moment, hein, donc Guillaume nous dit, est-ce qu'il y a une régulation sur ces médias sans censure? Ben, donc non, ce ne sont pas des médias sans censure, enfin ça dépend ce qu'on entend par le terme censure, mais en tout cas c'est pas sans régulation et c'est pas sans modération, mais en quelque sorte ça voudrait dire qu'on peut en avoir plusieurs des modérations, Audrey?
Ouais, en effet, et puis merci Guillaume pour ta question. En effet, l'idée d'avoir une... Alors quand je disais sans censure, c'est-à-dire sans censure sur l'ensemble du réseau, puisque il est vrai que donc il y a une modération de chaque instance du fait divers, et donc cette modération implique pour la personne ou l'équipe qui va modérer, eh bien, de pouvoir en effet avoir le contrôle et un impact sur ce qui est visible, sur ce qui est partagé sur l'instance, et cela peut être vu parfois comme une forme de censure, mais au niveau de l'instance seulement, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne ou l'équipe qui va modérer une instance dans le fait divers n'a de pouvoir que sur sa propre instance. Donc, s'il y a un abus de pouvoir, s'il y a ce que l'on peut appeler une censure, c'est-à-dire que si eh bien, l'administrateur, l'administratrice décide tout à fait arbitrairement de supprimer certains messages de son instance, eh bien, cette forme de censure n'aura d'impact que sur l'instance qui est donc sous la modération de cette personne ou de cette équipe, et le reste de la fédération fonctionne selon des règles différentes. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs types de modération. On va avoir des instances qui vont être gérées, eh bien là je pense à l'équipe qui gère Framapiaf, qui vont être gérées donc par une équipe qui va prendre chaque signalement qui sont faits sur son instance par les utilisateurs de son instance au cas par cas, faire une enquête de autour de ce signalement et essayer de décider de la décision la plus juste. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué à voir, c'est que dans la fédération, eh bien, on va avoir des situations conflictuelles entre des personnes qui sont donc sur l'instance que l'on modère et sur laquelle on a le pouvoir de masquer ou de bloquer cette personne-là, et puis donc des situations conflictuelles entre des utilisateurs de l'instance et des utilisateurs qui sont situés à un tout autre endroit du fait divers, et donc sur une autre instance, et donc sur un endroit, c'est-à-dire que ce sont des utilisateurs sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Donc l'idée, c'est ce qui est assez délicat dans la fédération, c'est de pouvoir eh bien, toujours modérer et maintenir le cadre de vie que l'on souhaite sur son instance dans un contexte ou bien ou dans l'archipélisation, eh bien, on a contact d'instances qui fonctionnent différemment avec une modération différente.
Alors merci Audrey, je me permets, on va prendre une deuxième question de Yann qui est en lien avec cette thématique. On va évidemment, on pourrait faire une émission un cours entier sur la modération, on pourrait même peut-être faire une thèse sur ce sujet si on voulait. En tout cas, Yann nous demande si et c'est une question très très bien vue, hein, s'il n'y a pas un risque qu'une instance grandisse tellement au niveau de son nombre d'utilisateurs qu'elle devienne de facto un point central qui surpasse les autres instances et que donc, in fine, ses administrateurs et modérateurs aient certain contrôle sur cette instance qui peut amener par exemple à de la censure. Alors je sais que le cas existe avec, tu as cité Framafiaf, qui est donc l'instance Mastodon gérée par Framasoft, et à un moment, eh bien effectivement, si cette instance se met à regrouper une très grande partie des utilisateurs, eh bien effectivement on peut se retrouver dans cette situation. Hein, donc c'est pour ça notamment que Framasoft décourage aujourd'hui l'inscription sur Framapiaf. Je sais même qu'il a été question de le bloquer, je crois qu'in fine ça n'est pas le cas, j'en suis pas sûr et certain, mais en tout cas elle décourage l'inscription sur Framapiaf pour éviter cela. Et puis avant de te donner la main pour commenter, rajouter quelque chose si tu souhaites, il y a eu le cas également avec Diaspora. Framasoft était la plus grosse instance Diaspora, et la décision de fermer l'instance Diaspora de Framasoft, eh bien pourrait conduire à un affaiblissement très fort de ce réseau social, voire même peut-être à sa quasi-disparition.
Oui, tout à fait. En effet, Yann, tu as raison, c'est-à-dire que cette tendance à la centralisation existe bien. Il y a l'instance historique de Mastodon qui est mastodon.social, qui elle regroupe donc plus de 500 000 utilisateurs. Et on a aussi des instances françaises comme mamotte.fr qui regroupe aussi énormément d'utilisateurs. Et donc, en effet, il y a un grand déséquilibre de population des instances. Et oui, cela a un impact lorsque, par exemple, eh bien, on se retrouve à vouloir bloquer, enfin, si une instance, mettons, si une instance généraliste avec beaucoup d'utilisateurs doit être bloquée puisqu'elle contient, imaginons, beaucoup de bots et qu'elle est source de spam pour d'autres instances, la décision de bloquer une telle instance va être assez difficile à prendre, puisque si elle contient plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, eh bien le fait de bloquer cette instance-là va aussi nous isoler du fait divers si il existe des points centraux, des hubs donc dans la fédération. Donc un des enjeux de la fédération aujourd'hui, c'est justement comme le fait activement Framasoft, d'essayer de redécentraliser la fédération en essayant donc de rééquilibrer le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices par instance. Et donc cela implique simplement d'essayer de décourager les inscriptions sur les instances qui sont déjà extrêmement peuplées par rapport aux autres instances du fait divers.
Merci Audrey. Encore une fois, on ne va pas passer plus de temps sur ces questions de fédération et d'organisation, mais elles sont vraiment fondamentales. Mais maintenant, on a envie de comprendre un tout petit peu mieux comment ça marche techniquement.
Oui, en effet, puisque on a parlé d'archipélisation et donc le fait de que chaque instance se gère en autonomie et puis qu'elle puisse coopérer avec d'autres instances. Mais en abordant les relations entre instances du fait divers, j'ai pris pour argent comptant le fait qu'elles pouvaient effectivement toutes être entre relations, qu'elles pouvaient être en relation. Or, cette possibilité-là n'est pas une évidence, c'est-à-dire que si vous essayez de vous poser la question de l'interaction entre médias sociaux, des médias sociaux donc sur le modèle centralisé propriétaire, vous voyez que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que est-il possible, selon vous, de pouvoir, pour des comptes qui sont sur YouTube et sur Twitter, de communiquer directement ensemble? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que cette interopérabilité-là, cette possibilité pour le fait divers de pouvoir communiquer entre instances d'un même média social ou de médias sociaux différents est une caractéristique en plus dans le fait divers. Et cela est possible donc par un terme que l'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, donc, c'est quelque chose dont on a aussi parlé dans de précédentes émissions de W1, mais une première définition tout de même de l'interopérabilité, c'est la capacité de matériel, de logiciel, de protocoles différents, bref, d'entités hétérogènes, à fonctionner ensemble et à partager des informations. Donc, en effet, le fait divers étant un modèle décentralisé et fédéré, l'interopérabilité, c'est la clé du bon fonctionnement de ce réseau. C'est-à-dire que sans interopérabilité, les instances qui sont décentralisées ne pourraient pas se fédérer. Elles resteraient décentralisées, mais elles seraient isolées. Et on aurait un réseau qui serait fragmenté, avec donc des instances qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait divers a une interopérabilité à deux niveaux. Ce qui est très intéressant, c'est que on a une première interopérabilité donc entre instances d'un même logiciel et entre instances de logiciels différents. Alors, La première, la possibilité de communiquer entre instances d'un même média social, ici, elle peut être assez intuitive, c'est-à-dire que, par exemple, si l'on prend le média social Mastodon, si on a deux instances de Mastodon, eh bien, ces instances vont pouvoir se fédérer, et les utilisateurs vont pouvoir communiquer entre eux, parce qu'elles vont parler un même langage, un même protocole, on va voir ça un petit peu après. Mais donc ces deux instances vont se fédérer lorsque une relation va s'établir entre au moins un utilisateur de chacune de ces deux instances. C'est-à-dire, par exemple, un utilisateur A, qui va être sur l'instance, la première instance, s'abonne à un utilisateur de l'instance B. Et à partir de là, cela va mettre en relation, cela va fédérer les deux instances, et tous les utilisateurs de l'instance A et B pourront interagir ensemble. Voilà. Ça, c'est le premier niveau d'interopérabilité. Et le second, eh bien, c'est le fait de pouvoir communiquer entre instances de médias sociaux différents dans le fait divers. Alors, ce qui permet cela, c'est l'utilisation commune de protocoles standards ouverts par tous les médias sociaux du fait divers. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que, on va prendre un exemple pour bien comprendre cela, c'est que dans le fait divers, par exemple, il est possible de s'inscrire sur une instance Mastodon, de s'abonner avec ce compte à une chaîne d'une instance Peertube, de commenter un événement créé sur une instance Mobilizon, de voir apparaître dans son fil d'actualité, donc sur Mastodon, dans l'interface de Mastodon, un post avec le lien d'un nouveau billet de blog qui a été produit sur une instance Plume. Voilà, donc il y a des interactions directes entre médias sociaux du fait divers. Alors, par exemple, si vous voulez aller voir par vous-même sur Librecours, vous avez un exemple, c'est sur l'instance Peertube de DataGueule, vous avez je vais respirer un coup quand même. Vous avez la vidéo réseaux sociaux flux alliés. Voilà. Et donc dans les commentaires de cette vidéo, si vous parcourez très rapidement la section des commentaires, vous allez voir des utilisateurs qui commentent depuis Peertube.social, donc ça c'est une instance de Peertube, et puis également on a Plumf qui est sur l'instance mstdn.fr, et donc ça c'est une instance Mastodon. Ça veut dire que sur une instance Peertube, eh bien vous allez avoir des commentaires d'utilisateurs qui viennent d'instances de Peertube et aussi de Mastodon. Voilà, donc ça ouvre des possibilités d'interaction qui sont très intéressantes. Là, je vous ai fait l'exemple classique entre Peertube et Mastodon, mais on en a d'autres. Et on a des niveaux de fédération qui sont hétérogènes selon les médias sociaux, c'est-à-dire que Mastodon est, on va dire, le logiciel qui est le plus fédéré, qui a des possibilités d'interaction les plus ouvertes. Pour PixelFed, par exemple, on va avoir une fédération à un seul sens, c'est-à-dire que les photos vont apparaître, une photo publiée sur PixelFed, sur une instance PixelFed peut apparaître sur une instance Mastodon, mais pas l'inverse. Une photo publiée sur Mastodon n'apparaîtra pas dans l'interface d'un compte PixelFed abonné au compte Mastodon qui l'a publié. Et puis aussi, vous avez d'autres logiciels, d'autres médias sociaux qui sont pour l'instant fédérés uniquement entre instances du même logiciel, comme c'est le cas de Limi. Voilà. Donc des niveaux de fédération hétérogènes, mais aussi surtout des possibilités d'ouverture et d'interaction très intéressantes pour le fait divers.
Alors merci Audrey, moi je crois que j'ai compris, hein. Donc ma copie de Mastodon que j'ai installée sur mon serveur, elle peut échanger des infos avec la copie de Mastodon de quelqu'un d'autre qui l'a installée sur son serveur, donc c'est le premier niveau d'interopérabilité. Ça permet à plusieurs serveurs différents, on l'a vu, d'avoir leurs propres règles, etc. Donc je ne dépends pas uniquement d'une entreprise comme Facebook par exemple, ou Google pour YouTube. Ensuite tu nous expliques qu'il y a un deuxième niveau d'opérabilité, c'est-à-dire que ma copie de Peertube peut aussi communiquer avec la copie Mastodon de quelqu'un d'autre. Donc ça permet à des logiciels différents d'échanger entre eux. Alors ça, c'est intéressant parce que ça évite également d'avoir un gros morceau de logiciel qui fait un peu tout, hein, comme on le trouve également pas mal avec les médias centralisés. Et puis ça permet aussi aux médias décentralisés, qui en général ont moins de moyens, de traiter les choses, on va dire, morceau par morceau. Et en assemblant tous ces morceaux, on retrouve le spectre fonctionnel peu ou prou qu'on a sur les grands réseaux, les grands médias centralisés. Bon, je pense que j'ai à peu près compris ça. Alors maintenant, je proposais de d'enchaîner avec ta cinquième partie sur la description technique. C'est-à-dire que moi, maintenant que j'ai compris ça, j'ai envie de faire mon propre logiciel. Alors, j'ai pas forcément là encore une idée très précise, mais j'ai envie d'avoir une fonctionnalité particulière. Par exemple, d'envoyer des messages ultra courts avec mon téléphone. Comme tu sais, j'ai encore un téléphone à touche, donc je peux pas envoyer des messages de plus de 12 caractères. Donc, si j'ai envie de... D'ailleurs, en général, ils font que 2 caractères et c'est OK. Donc si moi j'ai envie d'envoyer des messages très courts, je développe mon propre logiciel, ça ok, admettons que je sache faire, mais maintenant j'ai envie de communiquer effectivement avec les gens qui vont, avec les instances Mastodon ou Twitter. Donc ok, je développe mon logiciel, je libère mon code évidemment pour que d'autres m'aident à finaliser les choses, je l'installe sur mon serveur, donc ok, je loue un serveur par exemple chez nos amis de Gandhi qui nous en prêtent en ce moment pour la formation sur LibreCours, j'installe mon logiciel dessus, je me trouve un ou deux utilisateurs, disons moi-même au moins, et puis ensuite il faut que je respecte le protocole ActivityPub si je veux discuter avec ceux qui respectent ce protocole au moins. Est-ce que j'ai à peu près pigé? Est-ce que tu veux nous réexpliquer un peu tout ça en détail?
Ah, écoute, c'était super. Mais c'est vrai que on va maintenant creuser un petit peu dans cette partie technique pour savoir comment ça fonctionne. Parce que là, on comprend bien. Donc, en effet, Stéphane, tu as tout bien compris. Cette notion d'interopérabilité entre les instances, c'est le fait de pouvoir ajouter sa propre instance en faisant exactement ce que tu disais. Donc, on comprend d'un point de vue fonctionnel comment cela fonctionne. Mais on va essayer d'aller voir un petit peu sous le capot pour voir comment cette flexibilité du fait divers est implémentée concrètement, donc par l'utilisation de protocoles ouverts, comme tu l'as dit, ActivityPub, et puis le fait d'avoir d'utiliser donc des logiciels libres. Vous avez les définitions d'instances et protocoles en tête, mais les protocoles du fait divers, il y en a plusieurs. Hein. On a les protocoles ActivityPub, en effet, également au status. Il y a aussi des ponts avec Matrix, Diaspora et d'autres comme Zot. ActivityPub, c'est le protocole principal du fait divers, c'est-à-dire que c'est celui qui est utilisé par les médias sociaux les plus utilisés dans le fait divers. Alors, ce qui est en effet intéressant, c'est que ces protocoles donc sont standardisés et ouverts. Donc là, on va se focaliser sur ActivityPub. C'est un protocole standardisé donc par le Web Social Networking Group du W3C depuis 2018. Et le fait qu'il soit ouvert et standard ainsi permet à toute personne qui le souhaite et qui en a les compétences ou qui connaît quelqu'un qui a ses compétences, d'installer sa propre instance du fait divers et puis de la fédérer avec le reste, avec tout le fait divers, puisque on sait, cette instance C, on va savoir quel jeu de règles suivre pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se fédérer. Ça, c'est bien la caractéristique, l'avantage du protocole standardisé et ouvert. On sait quelles règles suivre pour pouvoir échanger des données, des informations avec le reste, avec les autres instances existantes sur le fait divers. Et donc tu disais en même temps, c'est vrai que tu pouvais modifier certaines caractéristiques de ton média social. Alors en effet, soit adapter un média social existant, donc comme Mastodon, si tu souhaites modifier la limite des caractères éventuellement. Tu peux également créer un autre type de média social à condition que celui-ci parle le ActivityPub, au moins, on va dire, ou un des protocoles du fait divers. En effet, ce que l'on peut voir pour le fonctionnement d'ActivityPub, c'est que c'est un protocole qui est, on va dire, en deux couches. Il y a un protocole entre les serveurs, c'est-à-dire c'est le protocole qui permet concrètement la fédération de contenu entre serveurs, c'est-à-dire c'est le protocole qui permet entre serveurs, entre instances du fait divers, d'échanger du contenu, des notifications. Et puis il y a également une seconde couche qui est celle du protocole entre client et serveur, c'est-à-dire le protocole qui est utilisé pour la création, la mise à jour de contenu, la suppression de contenu, qui va donc ensuite aller sur le serveur et pouvoir être, avec la première couche, fédéré avec d'autres serveurs. Alors, ActivityPub, c'est un protocole qui est spécifié Donc on l'a dit avec le W3C, qui est fondé sur deux autres spécifications, Activity Stream et Activity Vocabulary. Et donc ce protocole représente, est composé d'activités, d'acteurs et d'objets qui sont sérialisés, représentés au format JSON-LD. Alors, si on fait un aperçu rapide, le fait divers fonctionne avec donc, des acteurs qui peuvent être, on va dire, on va se concentrer sur le type d'acteur, un compte utilisateur. Et puis aussi, ActivityPub fonctionne avec des boîtes de réception et d'envoi, donc les inbox et outbox, qui vont être identifiés par leurs URL et qui vont recevoir et traiter des requêtes HTTP, avec deux T seulement, ça suffit, HTTP GET et POST, pour eh bien, voilà, recevoir donc des données. Alors, vous avez un schéma qui est, donc, que j'ai piqué sur le site, sur le site de standardisation d'ActivityPub, mais que vous retrouvez sur LibreCours. C'est le schéma qui explique, donc, qui traduit techniquement comment une interaction dans le fait divers se produit avec ActivityPub, comment elle est gérée avec les boîtes d'entrée et les boîtes de réception et d'émission, inbox et outbox. Donc, en fait, sur le fait divers, chaque utilisateur donc, va être un acteur, il va avoir une boîte de réception et une boîte d'émission. Et grâce, via des requêtes GET et POST, je vous la fais rapide, mais eh bien, chaque contenu va pouvoir être créé, placé par exemple dans une boîte d'émission, qui va pouvoir ensuite être disponible pour le reste de la fédération. Et lorsque un acteur souhaite, par exemple, s'abonner ou interagir avec un autre utilisateur, eh bien, les requêtes vont passer de la boîte d'émission de cet autre utilisateur à la boîte de réception de l'acteur qui souhaite lire des messages arrivants. Alors, l'explication est détaillée et très bien expliquée sur le site, justement, l'overview des spécifications d'ActivityPub. Et cela vous aidera donc à installer votre propre instance. Alors, pour installer sa propre instance, eh bien, vous allez pouvoir... c'est fou, ouais.
C'est difficile de faire de la radio avec un masque.
Oh, c'est fou. Je ne ventile pas du tout. Alors, donc, pour documenter, pour installer sa propre instance, merci, du coup, j'ai soufflé. Alors, pour installer sa propre instance, ce qui est bien, c'est que les instances, par exemple, les logiciels Mastodon, Peertube, Mobilizon, sont très bien documentés, donc je vous invite à aller voir sur LibreCours les liens, donc c'est doc.joinmastodon.org, doc.joinpeertube.org, etc. Vous avez toute une liste d'instructions pour installer votre propre instance et utiliser ensuite ActivityPub. Voilà. ActivityPub aussi quelques limites qui sont discutées dans plusieurs articles de blog. C'est à retrouver sur LibreCours si vous souhaitez en savoir davantage.
Aujourd'hui, les plateformes sont organisées sur un modèle qu'on pourrait définir un modèle de subordination technique. Il vous donne un ensemble d'ordres. Subordination au sens latin du terme, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un sous les ordres de quelqu'un d'autre. Hein? Et donc, quelqu'un qui... Les ordres se manifestent sur une plateforme comme Facebook ou comme Google, tout simplement, par tous les messages, les alertes, les pastilles que vous recevez chaque jour et qu'ils vous disent de faire quelque chose. Connecte-toi à ton profil et regarde ce que les autres ont fait avec tes photos. Donc ça, c'est des ordres, même au sens linguistique du terme, c'est de l'impératif. Ils vous disent, fais ça. Et encore une fois, c'est des ordres qui sont basés sur des mécanismes de captation de l'attention. Donc il y a des pastilles rouges énormes qui s'affichent, il y a des clics, des bings, des sons qui font en sorte que vous ne pouviez pas continuer à faire ce que vous êtes en train de faire et que vous devez vraiment vous tourner vers cet objet et réaliser cette tâche-là.
Un nouvel extrait du MOOC Chaton, donc on entendait là Antonio Casilli, et qui nous parlait de notre subordination aux réseaux sociaux. Alors, je vais en profiter pour lire une remarque de Loïc de l'association Scénarii qui nous a mis un petit message. Merci à toi Loïc sur notre Mattermost. Tu nous dis que la tendance à la centralisation en quelque sorte elle est naturelle dans la mesure où les utilisateurs eh bien ils vont chercher une instance solide à laquelle ils vont pouvoir faire confiance. Ils cherchent à être sûrs qu'elle va durer dans le temps, qu'ils vont pas perdre leurs données, etc. Donc on va avoir une tendance effectivement en quelque sorte à aller vers vers des instances auxquelles on va faire confiance, et on a tendance à associer le confiance aux grosses instances. Alors, je vais faire deux réponses à cette question pour continuer de laisser respirer Audrey. La première, c'est que, eh bien, en fait, une autre façon de faire, c'est de se rapprocher des associations qu'on connaît. Donc on n'est pas obligé d'aller vers les grosses instances visibles, mais on peut aller voir une association entre guillemets du coin. Donc comme vous le savez probablement maintenant, eh bien à Compiègne en tout cas, il y a une association qui s'appelle Picassoft, et on peut largement leur faire confiance, même si leurs services sont pas forcément très ont pas forcément énormément d'utilisateurs. Mais je vais faire une deuxième réponse avec, pour revenir faire le lien avec cette question de la subordination, c'est que, en fait, on le voit, pour que tout ça marche, eh ben, il faut effectivement pas mal de bonne volonté. Je suis assez d'accord avec toi sur cette tendance qu'on va avoir à aller assez rapidement aux choses rassurantes. Eh bien, il va falloir donc mettre en place plusieurs choses. D'abord, il faut la volonté de les développer, ces logiciels. Par exemple, ce que fait Framasoft avec Peertube ou avec Mobilizon, eh bien, à un moment, c'est de consacrer du temps, de l'énergie pour développer des nouveaux logiciels. Je cite Framasoft, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres initiatives de ce type-là. Les gens qui ont développé Mastodon, par exemple, c'est exactement la même chose. Ensuite, il faut effectivement une volonté de l'utiliser. Hein, donc, les uns et les autres, eh bien, il faut qu'on décide de passer là-dessus, ce qui a été ton cas, Loïc. Ensuite, il faut qu'on participe. Effectivement, qu'on garde peut-être la volonté de participer à cette non-recentralisation, donc de ne pas rester sur des grosses instances. Ensuite, il faut peut-être aussi avoir la volonté de faire connaître les choses, etc. etc. Donc en fait, on peut peut-être conclure, et je suis assez d'accord avec toi, que ce n'est pas forcément toujours le chemin le plus facile, et donc il faut mettre en œuvre un certain nombre de bonnes volontés pour résister à cette soumission dont nous parle Antonio Cassilli. Il y a pas mal d'autres enjeux en lien avec la question du fait divers. Audrey, tu veux peut-être en ouverture nous en citer quelques-uns, même si on aura probablement pas le temps de les détailler tous ici aujourd'hui.
Oui, en effet, et puis ça recoupe en effet ce que tu disais, la question de Loïc. Alors là, on a donc toute une communauté autour du fait divers, donc qui contribue activement au fait divers, donc que vous retrouvez sur Social Hub, sur Framacolibri, sur il y a plusieurs enjeux qui sont discutés en effet sur l'avenir du fait divers, pour que le fait divers reste le plus possible au bénéfice de ses utilisateurs, encore une fois. Donc plusieurs questions comme le fait de préserver la fédération, le fait de la préserver donc de ce phénomène de centralisation ou bien de fragmentation lorsque l'on a vraiment des scissions sur des règles ou des utilisations de médias sociaux du fait divers. Des décisions sur les fonctions à ajouter ou supprimer, encore une fois dans l'intérêt des utilisateurs. Le fait, alors encore une fois, c'est discuté au niveau des instances, mais en général, le fait de discuter sur la démocratisation de ces médias sociaux-là, comment faire pour favoriser l'appropriation de ces médias sociaux par davantage de monde, davantage d'utilisateurs, et puis comment faire pour maintenir une grande diversité d'instances, et donc lutter contre l'uniformisation des moyens d'expression. Et plus largement, on peut aborder rapidement donc les enjeux de littératie numérique, donc le fait de pouvoir vraiment comprendre comment ces moyens de communication fonctionnent, pour pouvoir ensuite être en mesure de, à minima, de les utiliser en toute connaissance de cause, donc dans notre propre intérêt, en choisissant les instances qui nous conviennent. Et puis cet enjeu de littératie numérique, c'est un enjeu qui a pour but quand même de garder une part de contrôle sur l'influence que ces médias sociaux-là ont sur notre propre construction. Donc essayer de les comprendre pour ensuite garder la main dessus, et puis, si on le souhaite, contribuer à ce que leur future forme, leurs futures utilisations aient un impact qui soit, on va dire, quand même plus émancipateur que toxique. C'est un petit peu ce que l'on espère pour les médias sociaux. À cela s'ajoutent des enjeux de liberté individuelle et collective, le fait d'avoir une diversité de moyens d'expression, de ne pas dépendre d'autorités centrales qui pourraient décider de l'évolution de ces moyens de communication-là. Voilà, ce sont des enjeux de résilience, d'indépendance, d'autonomie. Et puis, finalement, on peut conclure que le fait de s'essayer à utiliser ces médias sociaux-là, ça contribue, ça permet de faire évoluer sa position vis-à-vis des médias sociaux, c'est-à-dire que on change de perspective, on n'est plus seulement dans l'utilisation sans forcément comprendre comment cet outil, ces moyens-là fonctionnent. On en comprend les grandes lignes pour savoir au moins à qui on fait confiance en les utilisant, et puis aussi pour avoir donc un rôle à jouer dans la configuration de ces médias sociaux-là, dans leur évolution, et être acteur, actrice de l'avenir de ces outils, de leur diversité, de leur indépendance. Voilà.
Merci beaucoup Audrey, on a des pistes à approfondir, mais ce sera donc une autre fois, ou en tout cas dans un autre lieu. Réécoute de l'émission sur graphite.net, en podcast également sur aperi.tube, chaîne upload, donc aperi.tube, un exemple d'instance PeerTube, donc à l'intérieur du fait divers. Si vous commentez l'instance aperi.tube, je verrai les messages sur l'instance Framapiaf, qui est une instance Mastodon. J'arrête là, mais je pense que maintenant vous avez pigé à peu près comment ça fonctionne. Si vous voulez approfondir tout ça, Audrey a réalisé un support de cours que vous retrouverez donc sur librecours.net avec toutes les références et des explications plus détaillées et moins essoufflées car rédigées sans masque. La semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale. On va vous faire deux émissions sur le même sujet, donc sur la redécentralisation d'Internet. Le mardi 1er juin à 9h, Audrey et moi-même animerons donc une émission spéciale dans le cadre de l'UV SI24 qui nous y a invités. Et mercredi 2 juin, à l'horaire habituel, eh bien le même sujet sera traité, mais par Numaël de l'association Framasoft. Donc ce sera le même thème, mais traité différemment. Donc ça mérite d'écouter les deux. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Le plus souvent, nos chefs invisibles ne connaissent pas l'identité des autres membres du cabinet très fermé auquel ils appartiennent. Ils nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler les idées dont nous avons besoin, de la position qu'ils occupent dans la structure sociale. Peu importe comment nous réagissons individuellement à cette situation, puisque dans la vie quotidienne, que l'on pense à la politique ou aux affaires, à notre comportement social ou à nos valeurs morales, de fait, nous sommes dominés par ce nombre relativement restreint de gens, une infime fraction des 120 millions d'habitants du pays, en mesure de comprendre les processus mentaux et les modèles sociaux des masses. Ce sont eux qui tirent les ficelles. Ils contrôlent l'opinion publique, exploitent les vieilles forces sociales existantes, inventent d'autres façons de relier le monde et de le guider.
Léo nous a fait la surprise de nous mettre un dernier extrait qui est donc un extrait de Propaganda d'Edouard Bernays lu par Eric Erson Macarel. Cet extrait nous servira peut-être plutôt d'introduction pour l'émission de la semaine prochaine. On verra comment effectivement les questions de décentralisation de l'Internet, de redécentralisation du web, mais qu'on a abordé en quelque sorte aujourd'hui à travers les questions de fédération et donc de les autour du fait divers. Donc ces mêmes questions vont traverser d'une façon générale la thématique de la propagande, mais donc on en parlera plutôt la semaine prochaine, parce que là on va aller faire autre chose, on a passé l'heure. Au revoir.